Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler d'un sujet particulier qui est la centralité de Jérusalem dans la Tefila. Eh bien, je pense que c'est une évidence, c'est-à-dire c'est toutes nos prières tournent autour de Jérusalem. Donc, en fait, il y aurait presque rien à rajouter à ce propos. Mais je voudrais quand même d'abord vous parler d'un thème qu'on trouve dans la Guémara, dans le Talmud, dans Maseret Brachot, à propos d'une halakha qui est que on doit, ça s'appelle l'ismor geoula litfila. C'est-à-dire quoi l'ismor geoula litfila? Il faut, vous savez que avant la prière proprement dite étant la Amida, il y a la lecture du schéma. La lecture du schéma est encadrée de plusieurs bénédictions. Les deux premières bénédictions sont Yotzer Ameorot et Ahavat Olam. Et la dernière bénédiction, celle qui vient après le schéma, finit par les mots Gaal Israël, qui a sauvé Israël. Et l'injonction de la Guémara, c'est que une fois qu'on a dit Gaal Israël, il faut enchaîner immédiatement sur la Amida. Or, ce n'était pas toujours la halakha. Du temps de la Mishnah, cette halakha n'existait pas. Enfin, elle était réservée à quelques individus élus qui faisaient attention à joindre la bénédiction de Gaal Israël à la Amida. Ce n'est qu'à l'époque des Amoraïm que c'est devenu une règle générale. Et depuis, vous pouvez voir dans tous les Sidourim, on finit Baruch Ata Hashem Gaal Israël, béni sois-tu l'Éternel qui a sauvé Israël, et immédiatement on enchaîne sur la Amida. Et la question, c'est pourquoi est-ce que c'est devenu tellement important à l'époque des Amoraïm, alors qu'à l'époque des Tanaïm et encore à l'époque du Temple, ce n'était pas du tout, ça n'a pas du tout lieu. Et c'est parce que il s'est passé un événement. L'événement, c'est la destruction du Temple de Jérusalem. Et si à l'époque où le Temple était construit, vous aviez interrogé n'importe qui, un Juif ou un Goy, et vous leur avez demandé qui est le Dieu auquel les Juifs adressent leurs prières? Ben, la réponse était évidente. Le Dieu auquel les Juifs adressent leurs prières est celui qui a un temple à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a une adresse géographique vers laquelle tout le monde peut s'orienter. On sait que les secrets de la Torah étaient détenus par les Kohanim, par les prêtres du temple de Jérusalem, donc c'était une évidence. Qu'est-ce qu'il se passe à partir du moment où il n'y a plus de temple, il n'y a plus d'adresse concrète? Qui est le Dieu des Juifs? C'est alors que, pour ne pas se tromper, on dit, c'est Gaal Israël, celui qui a sauvé Israël et qui le sauvera un jour. C'est-à-dire qu'on est passé directement d'une prière qui avait un lieu dans le présent, quelque chose de tangible et de sensible, on est passé à un Dieu de l'histoire, un Dieu du passé et de l'avenir. Alors, ça vous explique quelque chose de très important qui s'est passé à ce moment-là, c'est que lorsque Dieu était présent, pourrait-on dire, dans son temple à Jérusalem, c'était le présent qui était important. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que le Créateur était le Dieu du monde, à la manière dont le conçoivent un peu les philosophes. Par contre, du temps de l'exil, eh bien, Dieu devient le Dieu de l'histoire. Parce que le présent est insupportable, et ce qui est insupportable, c'est l'absence justement d'un lieu de référence qui était le temple de Jérusalem. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, Dieu devient le Dieu du passé et de l'avenir. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est très simple. Vous savez qu'il y a dans la littérature du Judaïsme et dans la littérature de la pensée juive au Moyen-Âge, il y a deux approches. Rabbi Yehuda HaLevi, dans son Kuzari, met en évidence le fait que Dieu se manifeste à travers l'histoire. C'est-à-dire le lieu de sa présence, c'est le processus historique. Et donc l'espérance du retour. Par contre, chez Maïmonide, il y a une insistance sur Dieu en tant que le chef de la hiérarchie de l'univers. Il est à la tête du monde, ce qui fait que dans les universités, on a l'habitude de dire que Maïmonide est inspiré par la pensée grecque, tandis que Rabbi Yehuda Halevi serait plutôt plus fidèle à la pensée biblique. C'est une grave erreur, tout simplement. Rabbi Yehuda Halevi parle du temps de l'exil, tandis que Maïmonide parle du temps de la présence de Dieu dans le temple de Jérusalem. Pour donner un exemple qui va illustrer ça, c'est très simple. Si vous regardez dans n'importe quel guide pour le céder de la soirée du céder de Pessah. Alors, qu'est-ce qu'on a l'habitude de nous dire? Ben, on nous dit, c'est très simple, il faut faire le kiddush, et puis après, on prend le karpas, on brise la matzah, on remplit le deuxième verre, et on lit la Haggadah, on arrive au deuxième verre, et qu'est-ce qui se passe après ça? Après le deuxième verre, ben, on vous dit, c'est, ben, il faut prendre la matzah, et puis après, on prend le maror, et après, on fait le korer et le repas. Dans la Haggadah de Pessah telle que Maïmonide la présente, c'est tout à fait différent. Il dit, après le deuxième verre, on arrive à la matzah, puis on amène le sacrifice de Pessah, l'agneau pascal, on fait la bénédiction Asher Kitshanu b'mitzvotav b'tzivanu al achilat hazevach, et après pour al achilat Pessahim, et si le temple n'est pas construit, on passe directement au maror. C'est-à-dire que l'a priori, selon Maïmonide, l'a priori de la vie d'un juif, c'est que le temple que le temple existe et fonctionne. C'est-à-dire que la centralité de Jérusalem et de son temple dans la conscience de Maïmonide est extrêmement pesante. Ce n'est que lorsque nous avons perdu cette centralité que nous avons commencé à parler du passé et de l'avenir. Mais si déjà nous parlons de ça, le problème est de savoir qu'est-ce qui se passe pendant le temps de l'exil. Pendant le temps de l'exil, il semblerait que les Juifs font des efforts pour parler de Jérusalem. Alors vous avez dans les prières, nous avons Vetechezena enenu beshufra l'Itzion, que nos yeux voient lorsque tu reviens à Sion. Et après on dit aussi Veishtachavu le'arkotcho, prosternez-vous dans sa sainte montagne. Etc., etc. Le problème est de savoir, est-ce que les Juifs sont sincères quand ils disent ces choses-là? Alors, je voudrais vous citer un petit passage du Kuzari à ce propos. Après, dans la deuxième partie du Kuzari, c'est un dialogue entre le roi des Khazars et le rabbin, le Khaver. Et le roi demande au rabbin, dis-moi, qu'est-ce que vos sages disent d'Eretz Israël? Alors, il amène une page entière de citations, deux pages de citations, dans lesquelles il amène la grandeur d'Eretz Israël et de Jérusalem, telle que c'est compris dans nos rituels. Alors, le roi lui demande, si c'est comme ça, il dit dans le paragraphe 23, il dit, dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi tu ne montes pas dans ce lieu dont tu parles. Imken alors overata al mitzvah mechuyavet lefit toratra. Tu transgresses un commandement obligatoire selon ta Torah. Imencha ole la makom ahu. Si tu ne montes pas vers ce lieu, vencha osi ubetchayecha ou motecha, et que tu n'en fais pas le lieu de ta vie et de ta mort. Parce que tu dis, là je traduis directement, Rachem al Tzion ki ibet chayem. Prends en miséricorde, prends en pitié Tzion, car elle est le lieu de notre vie. Umaamin ki ashrina kashuv lishkon sham. Et tu crois que la présence de Dieu reviendra là-bas. Etc. Et là, je saute plusieurs lignes. Et il dit, je vous fais grâce de toute la page. Et là, le rabbin lui répond, Achen matzata mekom herpati meler kuzar. Tu as trouvé le lieu de ma honte, roi de kuzar. Et finalement, bon, là à nouveau, toute une page dont je vous fais grâce également. Ce qui est important, c'est la fin. En advarim. Les paroles que nous disons dans nos prières. Ishtahavu lehar kotsho, prosternez-vous devant sa sainte montagne. Ve ishtahavu la adom raglav, prosternez-vous devant le lieu de ses pieds. Ve amahazir shechinato litzion, toi qui ramènes ta présence à Sion. Ve chadome, ainsi que toutes ces choses-là, ne sont que kiim kedibur atuki uchetzipstuf azarzil. C'est comme les paroles d'un perroquet et le sifflement des corneilles. Kibelo kavanatalev anuomrim dvarim meleodomem, parce que c'est sans l'intention du cœur que nous disons des paroles de ce genre ou qui y ressemblent. Kaasher airota betzedek sarakuzarim, comme tu l'as bien fait remarquer, tu l'as relevé, prince des Khazars. Donc, c'est un sujet douloureux. Nous parlons en permanence du retour à Tzion, c'est dans la centralité de nos prières. Et pourtant, on fait comme si ce n'était pas le cas, comme si ça ne voulait rien dire. Et à tel point qu'on peut se demander, est-ce que lorsque l'on récite les lamentations de Tisha B'Av, qui sont là pour parler de la destruction du Temple, de la destruction de Jérusalem, est-ce que nous voulons vraiment renoncer à Tisha B'Av, ou est-ce que nous préférons plutôt les mélodies des quinotes? Mais bon, ne soyons pas trop méchants envers les Juifs, mais rappelons quand même certaines choses. Tout d'abord, il y a une Mishnah, enfin une Beraïta, pardon, qui dit qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un veut prier? Dans quelle direction doit-il se tourner? Alors la Mishnah nous dit, si on est en Chutz Laaretz, on est en dehors d'Israël, il faut s'orienter vers Eretz Israël. Si on est en Eretz Israël, il faut s'orienter vers Jérusalem. Si on est à Jérusalem, il faut s'orienter vers le temple. Si on est dans le temple, il faut s'orienter vers le Saint des Saints. Et la fin de la Braïta, c'est Nimtseu kol Israël mitkavelin makom echad. Il se trouve donc que tout Israël est orienté vers un même lieu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire ça de cette manière? Il se trouve que tout Israël est orienté vers un même lieu. Il suffirait de dire, où qu'on est dans le monde, il faut s'orienter vers le Saint des Saints. Mais en fait, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut d'abord s'orienter vers Eretz Israël. Si on n'a pas d'appartenance à Eretz Israël, au lieu de la résidence du peuple, alors on ne peut pas s'orienter vers le Saint des Saints. Parce qu'il n'y a pas de rapport à la divinité qui ne passe pas par le peuple. Si on est déjà en Eretz Israël, il ne faut pas s'orienter vers le Saint des Saints. Il faut s'orienter vers Jérusalem. Jérusalem étant le lieu de la royauté, du pouvoir d'Eretz Israël, du pouvoir du peuple juif, étant donné que le peuple d'Israël est une nation, et non pas seulement un peuple, une nation organisée en tant qu'État. Si déjà on est à Jérusalem, alors on s'oriente vers le lieu de la sainteté, c'est le Saint des Saints. Donc, ça veut dire que, quel que soit le lieu où l'on est, il faut s'orienter finalement vers Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Question posée par le Talmud, qu'est-ce qui se passe lorsque je ne sais pas où je suis? Je ne sais pas dans quel lieu du monde je me trouve. Est-ce que je suis au nord? Est-ce que je suis au sud? Est-ce que je suis en Eretz Israël? Est-ce que je suis en Poukat? J'ai oublié, je ne sais pas où je suis. Alors, la Braïta nous dit, il doit, le priant, penser que son cœur est orienté vers le Saint des Saints. En d'autres termes, ça veut dire que son cœur à lui devient le lieu du Saint des Saints et que lui-même dans son ensemble est un temple. C'est-à-dire que, quel que soit le lieu où on est, il y a une correspondance entre Jérusalem, le Saint des Saints et la personne qui prie. Il y a un texte intéressant de Rabbi Nachman de Breslav. Rabbi Nachman de Breslav, dans la deuxième partie du Likutei Moharan, quand il donne une instruction, il dit, pour passer du stade humain à être plus supérieur aux anges, il faut pour cela s'attacher à ce qu'il s'appelle Kol Mefursamei Hador, les hommes reconnus dans la génération. Je veux dire par là les maîtres chassidiques dans le contexte de Rabbi Nachman de Breslav, ça que ça veut dire, il faut se rapporter à l'ensemble des tzadikim, du peuple d'Israël. Maintenant, quand on se rapporte à... Alors maintenant, il y a un problème, dit Rabbi Nachman Vassav, c'est qu'il y a également des menteurs parmi les maîtres d'Israël. Et donc, comment faire la distinction entre un vrai maître et un faux maître? Rabbi Nachman répond, bah, c'est très simple. Si ils sont liés à Jérusalem, s'ils se sentent liés à Jérusalem, dans ce cas-là, ce sont des vrais maîtres, sinon non. Alors c'est quoi être lié à Jérusalem? Il y a tout un enseignement là-bas très détaillé dont je vous fais grâce pour l'instant, dans lequel il parle de certaines caractéristiques psychologiques qui sont dans l'ensemble renoncement à son profit personnel. C'est-à-dire si vous avez un maître qui cherche son profit personnel, vous savez qu'il se perd faux maître, tandis que s'il est désintéressé, ça veut dire qu'il est un vrai maître et qu'il est lié à Jérusalem. Intéressant de voir toujours que même quand on parle de métaphore chassidique, c'est le thème de Jérusalem qui revient. Il y avait à Jérusalem, au XIXe siècle, à l'époque où le Yishuv était très faible, il y avait très peu de monde, il y avait un des élèves de Rabbi Chaim de Volozhin, qui était lui-même l'élève de l'école de Vilna, qu'on appelait le Rav Yosef Zundel de Salah. Bon, peu importe son nom, enfin, si, ça importe son nom, Rabbi Yosef Zundel de Salam, qui avait l'habitude, c'était quand même un grand maître, il n'avait pas beaucoup de temps à perdre, mais il comptait les maisons de Jérusalem. Il y a tant et tant de maisons dans tel et tel endroit. Et alors on l'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Il dit, bah, c'est écrit en toutes lettres dans le livre de Tehilim, Shitu Librem Lechela, Sifru Migdalea. C'est à propos de Jérusalem, le psalmiste dit, comptez ses tours. C'est-à-dire, il y a un chérissement du lieu de Jérusalem qui est inscrit dans Tehilim. Et c'est ça que nous devons chercher. Maintenant, pour ce qui est de là, du lieu de Jérusalem, vous savez que la première fois dont il est question du lieu du temple de Jérusalem, c'est lors du récit du sacrifice d'Isaac, Akedat Yitzhak. Et là-bas, le nom que donne Abraham à Jérusalem, c'est Hashem Yireh. C'est là que Dieu sera vu. Maïmonide veut dire, c'est à partir de ce moment-là qu'Abraham a décidé de la direction de la prière, que la prière serait orientée vers Jérusalem. C'est la première fois que nous trouvons une signification nationale à Jérusalem, c'est quand Jérusalem devient le lieu de la prière. Vous comprenez donc la conjonction qu'il y a entre Jérusalem et la prière, à tel point même qu'il y a des midrashim qui nous disent que dans le Cantique des Cantiques, dans la description de la bien-aimée, vous savez que c'est un chant d'amour, le Shir HaShirim, dans le chant d'amour, il y a un moment où l'amant décrit sa bien-aimée. Et il passe sur les différents organes de son corps, et lui dit, ton cou, c'est comme une tour d'ivoire. Tzavarer kemigdal hashem. Les interprétations des midrashim disent, c'est quoi le cou en question? C'est Jérusalem. Ah bon, pourquoi Jérusalem serait comparable au cou plutôt qu'à un autre organe? Parce que le cou, c'est ce qui met en rapport la tête et le reste du corps. Donc, la tête serait le monde spirituel, quelle que soit la manière dont on le décrit. Et le corps, c'est le monde. Il y a un point de jonction entre le corps du monde et l'âme du monde. Ce lieu de jonction, c'est Jérusalem. Effectivement, il y a ici quelque chose de paradoxal. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le roi Salomon lors de l'inauguration du temple de Jérusalem. Il fait un grand discours dans lequel il commence par En Hashamayim Ushmei Hashamayim Lo Yichalkelucha. Le ciel et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Ve'af ki habayit hazeh asher baniti, à plus forte raison cette maison que j'ai construite. Donc il dit que le temple est une impossibilité logique. Et après il continue, il dit, bano baniti petzevula, machol ishtecha olami. Mais j'ai quand même construit pour toi un lieu de résidence, un endroit où tu seras présent pour toujours. Ça veut dire c'est comme s'il y avait un point de contact entre la transcendance et l'immanence. C'est-à-dire, il y a un lieu, disons, dans lequel il n'y a pas d'incarnation, Chas v'shalom, mais il y a une possibilité d'appréhender la transcendance dans un lieu. Et de ce point de vue-là, on peut dire que il y a un refus du spiritualisme qui dirait que le temple, c'est le temple qui est dans le cœur, le temple dans l'imagination. Non, il y a un lieu géographique, tangible, qui est le lieu vers lequel sont orientées les prières, non seulement d'Israël, mais du monde entier. En effet, là-bas, le roi Salomon dit, lorsque viendra un étranger à ton peuple prier dans ce lieu, tu feras tout ce qu'il te demandera. C'est-à-dire, il y a, c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs, au Kotel, et un peu partout, on voit des non-juifs qui viennent du monde entier pour invoquer le Dieu Israël. Mais je veux revenir donc à ce que disait Maïmonide pour ce qui est de la direction de la prière. Vous savez que il y a des... Je pense que je vous apprends rien du tout. Il y a des cultes qui sont en rivalité avec le judaïsme. En particulier, l'islam et la chrétienté. Alors, vous savez que la littérature rabbinique est remplie de débats autour du christianisme et de l'islam, essentiellement pour réfuter, pour dire, c'est ce qu'on appelle les disputations du Moyen-Âge, les chrétiens disent cela, ils ont tort parce que ça et ça et ça. De même pour ce qui est de l'islam, la même chose. Mais dans le Kuzari, par contre, dans le texte de Rabbi Yehuda Halevi, quand il remet en question l'islam et quand il remet en question l'islam et la chrétienté, alors son argument est le suivant. Ils ne connaissent pas la direction de la prière. C'est ça l'essentiel pour lui. C'est comme s'il y avait une géographie spirituelle. Et si on ne sait pas la bonne direction, c'est qu'on se trompe par rapport à l'intention du Créateur. Et donc, et c'est à ce moment-là qu'il faut rappeler quelque chose de très important. Vous savez que l'on dit que Jérusalem n'est pas mentionnée dans le Coran. C'est vrai. Jérusalem n'est pas mentionnée dans le Coran. Mais Jérusalem n'est pas mentionnée non plus dans la Torah. En tout cas, parce que son nom, sur ce nom-là, elle est appelée parfois Shalem. Une fois. Il y a également un autre rôle est appelé Hashem Yirae. Mais Jérusalem n'apparaît pas dans la Torah. Dans la Bible, oui, dans les Nevi'im, les Ketuvim, effectivement, Jérusalem est présent, mais pas dans la Torah. Alors, ça veut dire quoi? En fait, je veux rectifier ce que j'ai dit. Jérusalem est mentionné dans le Coran, par allusion, quand il est dit que Mahomet a changé la direction de la prière, la Qibla, comme on dit. Ça veut dire, Jérusalem, c'est le lieu vers lequel on ne prie pas. C'est le lieu vers lequel on a prié dans le passé. Mais maintenant, ça change. La direction de la prière change et s'est orientée vers la Mecque. Ça veut donc dire que pour l'islam, Jérusalem est le lieu du passé. Par contre, qu'est-ce qu'il en est dit dans la Torah? Quand la Torah, dans le livre de Devarim en particulier, dit le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. C'est-à-dire Jérusalem, dans son essence, c'est le lieu de l'avenir. Donc si pour le courant c'est le passé, la Torah, c'est le lieu de l'avenir. Par contre, il y a un autre livre qui a beaucoup d'influence dans le monde, c'est les Évangiles. Dans les Évangiles, Jérusalem est mentionné souvent. Parce que pour eux, c'est le lieu du présent. Étant donné qu'ils considèrent, et les chrétiens considèrent, que l'histoire s'est achevée, l'histoire est arrivée à son but, donc Jérusalem est présent. Donc c'est intéressant de voir que pour Israël, c'est le lieu de l'avenir, pour les chrétiens du présent, et pour les musulmans, le lieu du passé. Il y a ici une petite remarque, est-ce que pour tout un chacun, la religion a été prescrite et structurée pour engendrer ses efforts pour garder Jérusalem, Israël en aspiration première? Qu'en est-il aujourd'hui? Alors justement, c'est ça tout le problème. On peut dire, que ça sort un peu de notre sujet de la prière, mais c'est important quand même. Si Le retour d'Israël à sa terre a été une remise en question des fondements du christianisme. Pour l'islam, le retour d'Israël n'est pas un problème. En tout cas, il n'est pas un problème théologique. Étant donné que l'idée que les enfants d'Israël reviendront sur leur terre dans l'achèvement de l'histoire est mentionnée dans le Coran. Donc, le fait que l'État d'Israël soit fondé correspond tout à fait à la vision qu'ont les musulmans de l'histoire. Mais il y a autre chose qui peut remettre en question la validité de l'islam, c'est que l'islam affirme que le dernier des prophètes, c'est Mahomet, qu'il ne peut pas y avoir de prophète après Mahomet. Si, Bezrat Hashem, la prophétie revient à Israël, alors c'est là que l'islam sera remis en question. Or, le lieu d'où les prophètes tirent leur puissance, c'est le temple de Jérusalem. C'est pourquoi aujourd'hui le conflit tourne autour du mont du temple à Jérusalem, qui est affirmé comme étant une mosquée à l'Aqsa dans tout son territoire, contrairement d'ailleurs à la tradition musulmane qui était que la mosquée de l'Aqsa était uniquement dans le sud. Enfin bon, donc aujourd'hui vous comprenez que ce débat tourne autour de Jérusalem, c'est pas pour rien que les prophètes ont dit que l'achèvement de l'histoire se fera à Jérusalem. Et maintenant, revenons un peu à notre sujet central, les prières. Alors, est-ce que Jérusalem est centrale dans les prières? Évidemment. Vous n'avez qu'à lire le Sidour. Ça commence, la première partie du rituel, de la prière, c'est la récitation des korbanot le matin. On commence donc par la mention du sacrifice d'Israël qui s'est fait à Jérusalem. Et puis après, il y a des prières pour que Dieu nous ramène à notre ville. Là-bas, c'est cité le verset « Beti beti vaviotim mel harkochi, je les ramènerai dans ma sainte montagne, avec si marti bevet epilaki, je les réjouirai dans la maison de mes prières, ibeti beti fila ikare le cholamim, parce que ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. » Donc, vous voyez déjà que on n'a même pas encore commencé les Tehillim, le schéma, etc. Déjà, il est question de Jérusalem. Puis après, vous avez toutes les règles des sacrifices qui sont mentionnées. Or, les sacrifices ne peuvent se faire qu'à Jérusalem. Et puis après, vous passez au Pesuké des Imbras. Les Pesuké des Imbras, c'est une liste de psaumes dans lesquels le roi David mentionne plusieurs fois Jérusalem comme étant le lieu de la résidence. Donc, un juif qui fait sa prière tous les matins ne peut pas oublier Jérusalem. Sans parler du fait que dans la Hamida elle-même, quand on arrive donc à la prière proprement dite, alors là vous avez toute une série de demandes dans lesquelles nous demandons à ce que Dieu nous ramène dans notre pays, mais en particulier il y a également une prière pour la construction de Jérusalem. Il y a dans le texte ashkénaze de cette prière pour Jérusalem une très belle phrase, « Yerushalayim ircha berachamim tashu ». Quant à Jérusalem, ta ville, reviens-y avec miséricorde. Ça veut dire que ce qui est supposé, c'est que Dieu peut revenir à Jérusalem, pas par miséricorde, mais par rigueur, ce qui serait catastrophique. Donc nous demandons que ce retour se passe avec miséricorde. À ce propos, je voudrais rappeler la manière dont le professeur André Neher, Zichrono Libracha, lisait cette bénédiction. Il raconte que quand il était jeune, qu'il faisait partie de la communauté juive en Alsace, il disait « Yerushalayim ircha, Jérusalem ta ville ». Ça voulait dire, il dit à Dieu, « Reviens à ta ville, à toi, Jérusalem, et moi, je reste en Alsace ». Et puis après, un peu plus tard, il est devenu sioniste. Il lisait ça comme ça. Vous savez que les sionistes d'Europe occidentale n'avaient pas tellement l'intention de faire leur alia, mais ils étaient prêts à aider les juifs d'Europe orientale, qui étaient donc dans la persécution et la misère. Ils voulaient les aider à revenir à leur terre. Et donc, ils se disaient, Jérusalem, ta ville, c'est pas la ville de Dieu, mais c'est la ville du juif d'Europe orientale. Reviens, Berachamim, reviens avec miséricorde. Et puis, quand il y a eu la Shoah, il a compris que cette prière était adressée à lui-même. Il se disait, Jérusalem, ta ville. Il se parlait à lui-même. Reviens avec miséricorde avant que ça se passe par les catastrophes. Donc, il y a cette participation de la relation de l'homme envers Dieu, puis de l'homme envers son prochain, et puis après de l'homme envers lui-même. Tout cela se retrouve à Jérusalem. Et puis, vous avez, après cette bénédiction où on demande la reconstruction de Jérusalem et de son temple et du retour de la royauté, il y a une petite phrase qui est « Vetechezena enenu mishufra letzion berachamim » et que nos yeux voient ton retour à Sion en miséricorde. Ça veut dire quoi que nos yeux voient? On aurait pu dire simplement « Amène-nous à Tzion et lorsque tu reviens ». En fait, on peut dire ça comme ça. Quand Dieu revient à Tzion, alors il y en a qui le voient, et il y en a d'autres qui ne le voient pas. Et nous prions pour être de ceux qui voient que tu reviens à Sion. C'est-à-dire, Vetechezena et nous, ne soyons pas aveugles, parce que, effectivement, de nos jours, il y a un retour de la Shekhina, un retour de la présence de Dieu à Jérusalem, et pourtant certains disent, mais non, il n'est pas revenu. Et c'est souvent parce que, comme on dit, Enbalanes Makir Beniso, celui qui vit un miracle ne se rend pas compte qu'il est en train de vivre un miracle. Et donc il faut pour cela, tandis que ce sont ceux qui sont à l'extérieur qui s'en rendent compte. Je me rappelle qu'on avait demandé à Manitou Zichrono Livracha, est-ce qu'il y aurait un symptôme de ce retour de la Shekhina à Tzion? Il a dit, c'est très simple. Ceux qui ont affirmé pendant des siècles que Dieu avait abandonné Israël, et donc ont accusé Israël d'avoir été des déicides, reviennent sur cette position. Ça veut dire que Dieu est vivant de leur point de vue, il est revenu en Eretz Israël, et donc on ne peut plus affirmer que les Juifs l'ont tué, puisque cette présence est ressentie. Et donc, nous prions pour être de ceux qui ne sont pas aveugles et qui voyons Israël est revenu à que la Shekhina est revenue à Israël. Il y a à ce propos un texte de la Guémara et du Zohar qui dit « Dieu a juré qu'il ne rentrerait pas dans la Jérusalem céleste tant qu'Israël ne sera pas revenu dans la Jérusalem terrestre ». Or, c'est quoi la Jérusalem céleste? Eh bien, selon les kabbalistes, il s'agit d'un réservoir d'âmes, des âmes d'une envergure inégalée pendant le temps de l'exil. Pendant le temps de l'exil, les enjeux sont, disons, petits. L'enjeu d'un tzaddik au temps de l'exil, c'est que sa communauté fonctionne comme il faut, tandis que lors du retour d'Israël, il faut des âmes gigantesques, étant donné que nous devons également appréhender la dimension politique, la dimension militaire. Ce n'est pas facile d'être à la fois tzaddik et soldat. Et donc, il faut pour ça des grandes âmes. Et ces âmes sont appelées la Jérusalem céleste. Or, ces âmes n'apparaissent dans l'histoire qu'une fois qu'Israël rentre dans la Jérusalem terrestre. C'est quoi la Jérusalem terrestre? C'est celle que nous connaissons. C'est la Jérusalem géographique capitale de l'État d'Israël. Effectivement, on peut se rendre compte que depuis la guerre des six jours, il y a parmi ceux qui sont nés après cette guerre-là, il y a des personnalités d'une envergure inégalée pendant tout le temps de l'histoire. On peut dire que parmi les soldats d'Israël, il y a des personnalités, je parle également des victimes, de ceux qui sont tombés malheureusement, il y a ici une grandeur d'âme qu'on n'a pas trouvée depuis les combattants de Bar Kokhba. C'est-à-dire que nous faisons un saut dans l'histoire de quelque chose comme presque 1000 ans. De presque 1800 ans depuis Bar Kokhba jusqu'à nos jours. Et nous trouvons des personnalités d'une envergure inégalée, plus grande que celle de nos maîtres de l'époque du Talmud. Vous savez que les maîtres du Talmud, pour une grande partie d'entre eux, ont prié, ont demandé à ne pas vivre à notre époque. Ils ont dit, les enjeux seront terribles et nous ne voulons pas être confrontés à cela. Ça veut dire que eux n'avaient pas les forces que nous avons, nous. Nous avons des capacités de confronter ces enjeux-là. Donc ça, c'est pour Vetechezena et Ned. Et puis, il y a également une mitzvah, qui vient la mitzvah du Birkat Hamazon, la prière que l'on fait, enfin, la prière de gratitude, les actions de grâce que nous faisons après le repas, le Birkat Hamazon. C'est la seule bénédiction que la Torah a instituée comme obligatoire, même plus que la bénédiction pour l'étude de la Torah. Bon, vous savez que manger est très important pour les Juifs. On dit toujours, c'est une sorte de blague idiote, c'est quoi une fête juive? On a voulu les tuer, ils n'ont pas réussi, allons mangeons. Mais ça veut dire en fait beaucoup plus que cela. Ça veut dire que quand on se nourrit, quand on prend de la nourriture, on est conscient du fait que l'on reçoit sa vie, non pas de soi-même, mais de l'autre. C'est-à-dire on est en situation de créature. Si on est une créature, c'est donc qu'on a un créateur. Et donc, la centralité du Birkat Hamazon est énorme dans le judaïsme, et les rabbins ont introduit dans cette bénédiction une quantité de valeurs. Et c'est la valeur centrale, c'est nous te bénissons parce que tu es celui qui reconstruit Jérusalem. Oui, Jésus qui reconstruit Jérusalem, Bonnet Jérusalem. Et pourquoi? Parce que, comme disait Manitou, le temple de Jérusalem, c'est ce lieu où des hommes parfaits, dans un lieu parfait, font un repas parfait. Il y a une réconciliation totale de l'humain avec le naturel. Et tout cela est obligatoire dans la prière du Birkat Hamazon, d'où la question de centralité de Jérusalem, évidemment, c'est écrit en toutes lettres. Et puis, il y a également des événements dans la vie juive dans lesquels Jérusalem est obligatoirement mentionné. Par exemple, lors du mariage. Vous vous rappelez que lorsqu'on se marie, eh bien, la phrase que doit réciter le chatan, le marié, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite soit oubliée, que ma langue se colle à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne te mets pas au-dessus de toutes mes réjouissances. C'est-à-dire le moment de la grande réjouissance, une des plus grandes réjouissances de la vie, qui est le moment du mariage, est assombri par l'absence de Jérusalem. C'est la raison pour laquelle on brise un verre en signe de deuil lors de la roupa, lors du dé nuptial du mariage. C'est donc ça là. Donc vous voyez que même à ces moments-là, c'est Jérusalem toujours qui est présente parmi nous. Et donc on ne peut pas comprendre l'histoire du sionisme, du retour d'Israël à sa terre, s'il n'y avait pas en permanence ce souvenir de Jérusalem. Je n'aime pas tellement trop citer les antisémites, mais quand même, vous avez entendu parler de Drummond, qui a écrit La France juive, un des livres antisémites les plus importants du 19e siècle, dans lequel il dit, n'imaginez pas qu'un juif puisse s'assimiler à la France, parce que le point central de la conscience d'un juif restera toujours Jérusalem et non pas Paris. D'une certaine manière, on peut dire qu'il y avait ici. Bon, je ne veux pas dire que les antisémites ont raison, on n'a pas le droit de dire des choses pareilles. Mais enfin, réfléchissez quand même à cette phrase. Et puis, il y a le soir du Seder, lorsque l'on fête la sortie d'Égypte, la phrase qui clôt le Seder, c'est pas une phrase obligatoire, mais elle apparaît quand même finalement dans toutes les Haggadot, c'est l'Eshana Haba'a Yerushalayim, l'année prochaine à Jérusalem. Et puis encore, je voudrais amener encore un autre texte, qui est beaucoup plus tardif, écrit par Rabbi Shlomo Elkabatz, au XVIe siècle, à Jérusalem. Rabbi Shlomo Elkabatz a écrit le Lecha Dodi. Lecha Dodi est devenu une introduction à la prière du vendredi soir, lorsque on entre dans le Shabbat, et toutes les communautés d'Israël, dans le monde entier, ont adopté ce poème comme introduction au Shabbat. Et là-bas, le Shabbat est comparé à une fiancée. Lecha dodi likrat kala, va, mon bien-aimé, à la rencontre de ta fiancée. Lecha dodi likrat kala. Et donc, c'est le Shabbat qui est la fiancée d'Israël, et donc, on invite à cette rencontre. Très beau. Mais si on rentre dans le détail de cette prière, on voit des choses assez surprenantes. Il est d'abord question, là-bas, du temple. Mikdash Meler Eir Melucha. Toi qui es le lieu de résidence du roi, toi qui es la ville de la royauté. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Jérusalem alors qu'il s'agit du Shabbat? Parce que c'est en fait la même chose. Il y a le Shabbat dans le temps, il y a le Shabbat dans l'espace. Le Shabbat dans le temps, c'est le samedi, et le Shabbat dans l'espace, c'est Jérusalem. Il est Aïr Meloka. Kumi te'i mitoch ha'arecha, va, lève-toi et sors de la, du bouleversement. Rablach Shevet Aime Kabacha, il y en a assez que tu restes dans la vallée de la de l'étourdissement, et que lui te prenne en pitié. Et bon, je ne vais pas vous citer tout le texte, mais il y a un des paragraphes qui dit Itnaari me'afar, relève-toi de la poussière, kumi, lève-toi. Livshi bigde tif'arter ami. Revêt tes habits de splendeur, mon peuple. Alors, le problème, c'est que le mot ami, mon peuple, est en hébreu un mot masculin, comme en français. Mais la phrase est dite au féminin. Et vous savez que dans l'impératif en hébreu, il y a une différence si on s'adresse à un homme ou à une femme. Et là-bas, le texte est au féminin. Revêt tes, revêt tes vêtements de splendeur, ami, mon peuple. Et pour les hébraïsants, c'est très clair qu'il y a un problème. Et en fait, il faut lire ça comme cela, c'était ce que disait le grand-père du Rav Kook. Il disait, que tout cela est adressé à Jérusalem. C'est le poète qui enjoint à Jérusalem de revêtir ses vêtements de splendeur. Il me revêt les vêtements de ta splendeur. Et qui sont les vêtements de ta splendeur, ami, mon peuple? C'est-à-dire, le poète ne s'adresse pas au peuple, il s'adresse à Jérusalem, qu'elle veuille bien se revêtir. Et le vêtement de Jérusalem, c'est le peuple de Jérusalem, le peuple d'Israël, qui en est le moment de la, qui est la manifestation de sa gloire. Or, cela est récité par tous les enfants d'Israël dans le monde entier à l'entrée du Shabbat. Même, d'ailleurs, vous pouvez voir ça dans le film Rabbi Jacob, lorsque le chauffeur juif reçoit le Shabbat et qu'il commence par l'Echa Todi. Ça, c'est donc pour les, disons, pour les prières. Maintenant, dans les, il y a parfois mention de plus que Jérusalem, le temple de Jérusalem. Et c'est là que, par exemple, vous avez dans le livre de Tehilim, lorsque le poète dit, « Samachti obrimli bet Hashem neler »« Je me réjouis quand on dit à moi, allons dans la maison de Dieu. » Pourquoi est-ce que David a besoin de dire, le roi David a besoin de dire qu'il se réjouit quand on lui dit d'aller dans la maison de Dieu? Pour une raison très simple. C'est que le prophète Nathan a dit au roi David, « Tu ne construiras pas le temple, c'est ton fils qui le fera. » Et à partir du moment où il lui a dit ça, les gens dans la rue disaient « Quand est-ce que David va enfin mourir pour qu'on puisse construire le temple ?» Et David, non seulement n'était pas vexé, mais il se réjouissait de cette exigence. C'est-à-dire l'aspiration au lieu où Dieu va résider, c'est une aspiration qui réjouissait celui qui devait en payer le prix en mourant. C'est pas très grave. C'est quelle importance que David finisse son règne si, grâce à cela, le temple sera reconstruit. Dans le temple, il y avait une prière que nous récitons également lors des événements heureux du calendrier, le Hallel. Et le Hallel, bon, on parle de la sortie d'Égypte, il parle de la guerre de Gog et Magog, il parle de beaucoup de choses. Et puis, ça s'achève par les paroles que disaient les prêtres à Jérusalem lorsqu'ils recevaient ceux qui faisaient le pèlerinage. Ils disaient « Baruch haba b'shem Hashem » Béni soit celui qui vient au nom de Dieu, et nous vous donnons notre bénédiction depuis la maison de Dieu. Et après, on parle également des sacrifices qui sont présents. C'est-à-dire que dans Jérusalem, il y a toujours cette idée du temple. D'ailleurs, à tel point même que, par exemple, Théodore Herzl, qui n'était pas très religieux, quand il décrit sa vision de Jérusalem dans l'avenir, dans l'Alt-Neuland, il parle quand même du temple. Alors, il évite de parler des sacrifices, ça le gêne un peu, mais il dit que Le vendredi soir, tout le monde va faire sa prière dans le temple de Jérusalem. Il s'agit là-bas, effectivement, du temple, pas d'une synagogue, mais effectivement du temple de Jérusalem. Tout cela, c'est dans les prières, disons, officielles. Et puis, il y a également toute une littérature qu'on appelle les piyutim. Alors, dans les piyutim, ça vient grec, piyut, ça veut dire poésie. Il y a, ce sont des poésies qui sont récitées dans toutes les occasions, à la table du Shabbat, dans les circoncisions, dans les mariages, dans les circonstances de deuil, etc. Il y a une présence très très appuyée de Jérusalem. Je pense d'ailleurs à ce chant, enfin cette complainte de Rabbi Yehuda Alevi, ce qu'on appelle une sionide, c'est-à-dire il y avait des poèmes au Moyen Âge qui parlaient de l'aspiration au retour à Jérusalem. Alors la fameuse sionide de Rabbi Yehuda Alevi s'appelle Tzion Halo Kishali. D'ailleurs, il y a plusieurs imitations très belles de ce Tzion Halo Kishali, dans lequel Rabbi Yehuda Lévi dit, est-ce que je peux rester tranquille, moi qui habite en Espagne, dans la splendeur du judaïsme espagnol de l'époque, ce qu'on appelle l'âge d'or, alors que Jérusalem est détruite? Et il y a des lamentations absolument incroyables. Et il y a, dans ce contexte-là, attendez une seconde, je vais c'est un texte assez long, donc je vais vous citer seulement j'arrive à retrouver ça. Ah oui, voilà. Mi itneni meshotet, que puisse être errant, bimkomot asher niglu Elohim, dans les lieux où la divinité s'est révélée, les chosaïr v'tzirahir à tes visionnaires et à tes délégués, ni à selir renafaim v'arik nedod, puisse-je me faire pousser des ailes et me rendre au loin, anid levitrei levavi ben v'etarahir, et je consolerai les parties de mon cœur entre tes éclats. Épaule les apaï allez à terre, je tomberai sur ma face dans ta terre, des herté à panaïr, je vais chérir tes pierres, mes odes va achonen et à paraïr, beaucoup, et je prendrai en grâce ta poussière. Et bon, alors, c'est un long texte, simplement, je vous invite à le lire à l'occasion. Attendez. Voilà, ici le texte. Et là-bas, il y a un texte dans lequel il dit, Annie, enuter, Annie kinor lechol shirahir, lorsque je raconte dans ton malheur, je suis le violon, enfin, c'est pas vraiment le violon, c'est plutôt la lyre de tous tes chants. Annie kinor lechol shirahir. Ce texte de Rabbi Yehuda Alevi a été repris par Naomi Shemer, dans le fameux chant Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem, ville d'or. D'ailleurs, le thème de Jérusalem, ville d'or, c'est le nom Yerushalayim Shel Zahav, une Jérusalem d'or, c'était le nom d'un bijou en or que l'on offrait à sa femme pour exprimer son amour. C'est Rabbi Akiva, qui, lorsqu'il était dans la pauvreté la plus totale, qu'il devait dormir sur un lit de paille, il n'avait même pas de matelas, a promis à sa femme de lui offrir un jour Yerushalayim Shel Zahav, une Jérusalem d'or, c'est une sorte de diadème qui représente Jérusalem. Et tout cela a été repris par Naomi Shemer lorsqu'elle dit « Allo lechol shirayir ani kinor » car je suis pour tous tes chants, je suis moi la viole, je suis la lyre qui va chanter tous tes chants. Et ce chant qui est plein d'un amour pour Jérusalem a été chanté lors de la soirée de Yom HaAtzmaout, du jour de l'indépendance, 3 semaines avant la guerre des 6 jours. Et ça a été chanté comme étant un refrain entre différents chants lors du festival d'un festival de chansons à Jérusalem, Nos Bnei HaOuma. Et ce chant a été repris dans tout le peuple. et c'est devenu une sorte de refrain d'amour de Jérusalem. Et elle parle là-bas de Jérusalem désolée, personne n'y rend visite, le mont du Temple est délaissé, etc. Et quelques semaines plus tard, après la guerre qui a fait la conquête de Jérusalem, la reconquête de Jérusalem, Naomi Shemer a rajouté un paragraphe dans lequel elle dit « Nous sommes revenus à Jérusalem », etc., etc. C'est un des plus beaux chants qui ont été écrits sur cette ville dans l'histoire. D'ailleurs, la question se pose, oui, mais attention, c'est une femme qui chante. Or, la halakha dit qu'on n'écoute pas la voix d'une femme qui chante. Oui, mais rappelez-vous une chose, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, un des grands maîtres de la halakha, dit que lorsqu'il y a Ashra Shekhinah, lorsque la Shekhinah, la présence de Dieu se manifeste en Israël, cette interdiction est levée. Et là, on écoute également des chants des femmes, comme la prophétesse Déborah, comme la prophétesse Myriam, qui ont proclamé des chants lors de la libération d'Israël. Et puis, il y a également dans les Zemirot, les chants que l'on récite à la table du Shabbat. Par exemple, dans le fameux Yaribon Alam V'Almaya, un chant qui est entièrement en araméen, il finit par les Mikdashar Tuvul Kodesh Kutin, revient à ton temple, dans le Saint des Saints, à Tarbiveyardun Ruchin Benafshin, le lieu où se réjouissent les esprits et les âmes, les amours de l'Archirine de l'Archine, on racontera pour toi des chants et des louanges, Yerushalem, Karta Nishufaya, à Jérusalem, le lieu de ceux que tu as élus. Alors, c'est un chant qui est repris dans toutes les communautés d'Israël. Il a été écrit par Rabbi Israël Nadjara au XVIe siècle à Tzfat. Rabbi Israël Nadjara, rappelez-vous aussi qu'il était grand rabbin d'une ville importante en Israël, la ville de Gaza. D'ailleurs, sa tombe se trouve jusqu'à ce jour dans le vieux cimetière de Gaza. Je ne sais pas dans quel état, mais c'est le cas donc de Rabbi Israël Nadjara. Et puis, vous avez également des chants d'amour tels que par exemple le célèbre Ochil Yom Yom Eshtaim. Alors, c'est intéressant parce que ce chant a été copié, a été une imitation d'un autre chant à la gloire de Tibériade. En effet, il fut un temps où il y avait une très grande alia d'Afrique du Nord, du Maroc en particulier, à Tibériade au XIXe siècle. Et puis après le chant qui donne la louange de Tibériade, quand même, les Juifs se sont dit, mais enfin, pourquoi ne pas faire la même chose pour Jérusalem? Vous avez un très beau chant, très long d'ailleurs, et je ne vais pas vous le lire en entier, mais qui dit, Ochil yom yom, de tous les jours, j'espère, eshtaé, en admiration, eni tamid de Sophia, mais mon œil est toujours en attente. D'ailleurs, de là est rentré dans la tikva, la fameuse phrase, Aïn de Tzion Sophia, l'origine est avant. Matai avo ve'ere Yerushalayim benouya, quand viendrai-je voir Jérusalem reconstruite? Alors là, vous avez toute une série de louanges, on explique en quoi Jérusalem est grande, et ça finit par Hazek Amdal de Evion Aïkarim Benetzion, renforce le peuple qui est dans la misère, et les fils de Sion, qui sont tellement chéris, Abaï Kazé Yé Elion, cette maison sera suprême, les Almé Almaya, pour l'éternité. Alors, c'est, ou bien, par exemple, un autre, je prends tout à fait au hasard, il y a des quantités extraordinaires de textes, par exemple, dans le Tishbi Tzori Levavi, fait partie des Bakashot, des Shabbats de l'hiver. Alors, vous avez, également, Tishbi Tzori Levavi, le Tishbi, c'est-à-dire, le Egaonavi, qui est le baume de mon cœur, je m'en souviens, etc. Et après, ça finit par Eiraikar ou Migrash Bate Menuchacha, la ville de la ville chérie et le lieu de ta résidence, et la Yoshevim Bacheli et Eye Laem Rachaman, je prendrai en pitié ceux qui sont en captivité, ce qui n'est pas sans actualité. Alors, vous avez, bon, des chants sur Jérusalem, vous en avez en quantité exponentielle. Je vous invite par exemple à dire également les David Shirum Mizmor, Shirum Tiltaim, etc. En tout cas, Si on voulait faire la liste des mentions de Jérusalem dans la prière, ça nous prendrait plusieurs heures, et sans parler lentement d'ailleurs, même en parlant très rapidement. Donc je pense avoir comme m'être acquitté quand même de mon engagement envers la demande qui m'a été faite de donner un cours sur la centralité de Jérusalem dans les prières. Jérusalem étant le cœur du monde, ce lieu où les prières se rattachent pour monter vers le ciel. Alors passez une bonne fête de Yom Yerushalayim et à bientôt.
Merci beaucoup, Rav Cherki. À chaque samedi.
Ça me